إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأحمد الله وأشكره أن يسرنا هذا في هذا البيت من بيوت الله أن نتدارس فيه هذا العلم، ألا وهو الفقه أو التفقه في الدين. فلا زالت الحديث متواصلة فيما يخص درسنا الذي بدأناه في الأسبوع الماضي باسم أحكام المسح على الخفين. وقبل الشروع أو قبل أن نشرع في الدرس هذه الليلة المباركة، أحببت أن نلخص إن شاء الله ما درسناه الأسبوع الماضي. فتذكيرا أذكر الإخوة الحاضرين والمستمعين أننا عرفنا المسح على الخفين، عرفنا المسح على الخفين لغة وشرعا، ثم ذكرنا مشروعيته، أي مشروعية المسح على الخفين، وذكرنا الأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأهل العلم في مشروعيته، ثم ذكرنا بعض المسائل المتعلقة والمتفرعة على هذا الباب فيما يخص ما هو الأفضل، المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين، وفصلنا في ذلك. ذكرنا أيضا أن المسح لا يجزئ إلا في الحدث الأصغر، أعيد أن المسح على الخفين لا يجزئ إلا في الحدث الأصغر، مما يفهم منه أن إذا أحدث حدثا أكبر ينبغي عليه أن ينزع ماء الممسوح عليه ويغتسل بالماء، هذا هو الأصل. وذكرنا أيضا أن المسح على الخفين هو بدل للوضوء، لهذا ذكر أهل العلم في كتبهم بعد الوضوء بعد باب الوضوء مباشرة. وذكرنا أيضا أن المسح رخصة من رخص الله تعالى. ثم في نهاية الدرس ذكرنا يعني مجملا ما هي الأمور التي يجوز المسح عليها، ما هي الأمور التي يجوز المسح عليها، ومن بينها وهو الأصل عنوان هذا الليلة الخفين. وذكرنا أيضا يدخل فيهما أو يقاس عليهما بعدما يعني نذكر هذه الليلة إن شاء الله من الأدلة وقوال العلم، أنه يدخل فيها أيضا أو مما يجوز المسح عليه الجوربين، ومما يجوز المسح عليه النعلين، ومما يجوز عليه المسح عليه العمامة، ومما يجوز المسح عليه الخمار خاصة للنساء، ومما يجوز عليه الجبيرة. فهذه بعض الأمور أو أهم الأمور التي يجوز المسح عليها. فهذا ذكرنا أو ألخصت يعني بكلمات قصيرة هذه النقاط التي ذكرناها في الأسبوع الماضي حتى تكون مقدمة لما سيكون لنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. Donc je disais, je remercie Allah qui nous a facilité dans cette nuit bénie de continuer nos cours dans la jurisprudence qui est très important pour le musulman, et on a choisi et surtout c'est la continuité de la séance ou du dars qu'on a commencé la semaine dernière qui concerne les jugements dissuits sur les al-khuf, et on a expliqué et on a défini c'est quoi al-khuf, et on a dit on a défini que al-khuf c'est les chaussettes qui sont faites en cuir. Nous avons montré la semaine dernière c'est quoi le khuf. Donc on a expliqué, donc c'est ça le titre de notre assise aujourd'hui inchallah, c'est la continuité de ce qu'on avait commencé. Donc ça concerne les jugements dissuits sur al-khuf. Donc on a défini c'est quoi al-mash, c'est quoi essuyer, même soit dans la langue arabe ou soit dans la législation, que signifie al-mash. Aussi on a défini c'est quoi al-khouf, l'orat al-misharan aussi, soit dans la langue arabe que signifie aussi dans la législation que signifie al-khaf. Et aussi, le deuxième point qu'on a abordé, c'est mashru'iyatuhu, c'est-à-dire quels sont les arguments. Et vraiment, on a vraiment trop parlé même sur ce point, surtout. Et on a cité le verset et l'explication de ce verset. Ensuite, on a cité certains hadiths et même les paroles des sahaba et des tabi'in et beaucoup d'autres savants. Troisième point aussi qu'on a abordé, c'était dans le même sujet. Quel est le meilleur? Quel est le meilleur? Est-ce que d'essuyer les chaussures ou les chaussettes, ou le khouf, ou enlever les chaussures ou les chaussettes ou le khouf, et laver les pieds? Et on a dit que le Nabi sallam, il ne surchargeait pas à l'état comme il était. C'est-à-dire, si à la base, il ne portait pas le khouf, qu'est-ce qu'il faisait? Il lavait ses pieds. Il lavait ses pieds. Si, à la base, il portait al-khouf, qu'est-ce qu'il faisait? Il essuyait sur ses khouf. C'est-à-dire, on regarde quel est notre état ou quel est l'état des pieds. Si les portes, s'ils sont couverts, on essuie. S'ils ne sont pas couverts, on n'essuie pas. Et c'est ça à la base. Et ça, c'est Ibn Qayyim, rahimahullah, qui a cité cette parole. Et on a lu d'un livre la parole de Ibn Qayyim sur ça. Aussi, on avait parlé. Et on a dit que l'essuie sur l'essuie, sur les pieds, c'est une chose qui remplace le fait de laver les pieds. Donc c'est une chose qui remplace. Et on a dit aussi pourquoi les savants, dans les livres de jurisprudence, ils ont mis ce sujet, c'est-à-dire al-mash ala al-khufayn, l'essuie sur le khuf, dans les livres, on trouve juste après le chapitre des ablutions. On vient de le dire, on vient de répondre parce que c'est une chose qui remplace les ablutions. Au niveau des pieds, hein, c'est-à-dire les pieds, soit on les lave, ça si on fait le wudu, si on ne les lave pas, qu'est-ce qu'on va faire? On essuie, c'est pour ça. C'est une chose qui remplace le fait de laver les pieds. C'est pour ça qu'il était mis juste après le chapitre des ablutions. Et aussi on a dit que al-mash rukhsa. Al-mash, c'est une autorisation, une permission. Donc, on l'utilise, donc on pourra l'utiliser, et Allah Ta'ala aime celui qui utilise ses permissions. Le quatrième point qu'on a abordé la semaine dernière, c'était à la fin de la séance, on a dit quelles sont les choses sur lesquelles on peut essuyer. La première chose, on a dit al-khufayn, et on a dit c'est le sujet de notre assise, al-khufayn. Donc je répète, al-khuf, c'est les chaussures, c'est les chaussettes qui sont faites en cuir. C'est ça, al-khuf. Aussi, on peut essuyer sur al-jawarib, les chaussettes que vous possédez. Tout le monde, je pense que tout le monde porte des chaussettes. Il n'y a personne qui porte un khuf aujourd'hui? D'ailleurs. Donc c'est al-jawarib, c'est la deuxième chose qu'on peut essuyer, sur laquelle on peut essuyer. Troisième chose, al-na'layn. Ah oui, les chaussures. Les chaussures, soit sandales, soit des chaussures, etc. Quatrième chose, al-amama. Ah oui, l'imama. Vous connaissez c'est quoi l'imama? Aussi, la cinquième chose, al-khimar, pour les femmes. Le voile, pour les femmes. Et la sixième chose et la dernière, al-jabira. Et on a dit, à la base, comment on peut le traduire al-jabira? Voilà tout ce qui est bondage, exactement. Exactement. C'est pour ça que je ne vais pas dire le plâtre, mais en général, toute chose hein, qui enveloppe ou qui entoure, tu dis quoi? Oui, voilà, qui entoure les blessures, etc. Donc on fait partie, et surtout, pour actuellement, le plâtre. Parce que c'est une chose qu'on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas casser le plâtre pour laver le monde. Donc il fait partie. Donc on vient de citer ces six choses qu'on a le droit. Et quand je dis on a le droit d'essuyer, que chaque chose à la base, chaque chose de, parmi ces choses qu'on peut, sur lesquelles on peut essuyer, on peut consacrer un dars à la base. Mais aujourd'hui, les cours qu'on va consacrer, ça concerne juste un mas'h ala profane. Pourquoi? Parce que c'est lui la base. Si la personne comprend ce sujet, un mas'h ala profane, là on pourra comprendre facilement le reste. Donc si on maîtrise un mas'h ala profane, on pourra facilement maîtriser, parce que les chaussures et les chaussettes, c'est la même chose, parce que ça concerne toujours le pied. Et après le reste, juste l'amama et le khimar qui concernent la tête, vous remarquez, il y a des choses qui concernent la tête, des choses qui concernent le pied, et al-jabira, plat ou tout bandage qu'on ne peut pas l'enlever, ça fait partie de al-jabira. Non, le khimar qui couvre... parce que la femme, elle peut enlever... elle peut montrer son visage quand elle fait sa prière. À la base. Donc si elle peut faire les ablutions, on verra quand est-ce qu'elle pourra essuyer. C'est comme la personne qui fait la hammam. Il y a des conditions, je précise. Ça c'est en général sur quoi on peut essuyer. Aujourd'hui on va commencer par le 1. Enfin le sujet c'était le 1, mais on fait partie al-jawari ben alain, les chaussures, les chaussettes, parce que les trois choses, ça concerne le pied. Et après, la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est très court parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, on pourra facilement terminer. Al-amama et le khimar, parce que c'est la même chose. Il y a une condition pour l'amama, le khimar, il n'y a pas de condition. Et le reste, al-jabira aussi, il n'y a pas de. C'est plus facile que le prof. Pourquoi le prof, c'est lui la base. C'est pour ça, dans les deux jurisprudences, il titre le chapitre Mas' ala al-khufayn. Ils n'ont pas nommé al-khufayn, wal-na'layn, wal-khimar, wal-kadak. Non. À la base, ils ont titré le chapitre al-mas' al-khufayn, il suit sur al-khuf. Al-Khufayn, c'est le duel du terme Khufun, donc Khufayni, en duel. Après, dans le chapitre, il cite tous les hadiths qui concernent Al-Jawarib, Al-Na'layn, Al-Amama, Al-Khimar et Al-Jabir. Donc, il englobe toutes ces cinq choses qui restaient dans le chapitre de Al-Mas' al-Khufayn. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de hadiths qui concernent Al-Mas' al-Khufayn. Donc, ça, c'est en général, et c'est un résumé de ce qu'on avait fait la semaine dernière. Donc là, et c'est la séance la plus importante, c'est là où on rentre dans le cœur du sujet, c'est pour ça, avant de commencer dans le Inch'Allah, comme je l'ai fait la dernière fois, et ça serait bien de... rappeler que, à la base, et avant qu'on fait quoi que ce soit, j'ai préféré, en préparant Abdars, qui est vraiment un sujet très très important, et j'étais très intéressé à faire une recherche sur certains sujets, donc il ne faut pas dire que c'est un sujet très simple, et je n'ai pas besoin de dire non, il est facile. Oui, c'est vrai, il est facile, c'est vrai. Après, quand on explique, on donne certains jugements, c'est très facile. Mais il y a des avis qui sont très très forts, et des divergences très fortes. Donc c'est très important et de connaître ce sujet. Pourquoi? Parce que on est dans l'hiver, ça va dire d'enlever les chaussettes pour faire les ablutions. S'il y a une permission, pourquoi on l'utilise pas? Et bien sûr, avant qu'on l'utilise, on doit connaître. C'est-à-dire qu'on le fait en science, avec la science. C'est-à-dire, quand est-ce que je peux faire le masque? Quelles sont ses conditions? Quelles sont ces annulations? On verra. Il y a certaines choses qui annulent al-mas'h al-khufayn pour certains cas. Donc si on ne le sait pas, la personne, pendant une semaine, il fera toujours le mas'h al-khufayn. Sans faire attention que, non, c'est impossible. On verra quand est-ce qu'il y a une durée bien précise pour le voyageur, pour le résident. Il y a des conditions avant de le faire. Comment le faire? Etc. Est-ce que si j'enlève les chaussures, les chaussettes, ça annule les ablutions? Est-ce que ça annule beaucoup de choses? On verra. Est-ce que il faut des conditions bien précises pour le prof? Est-ce qu'il doit couvrir la cheville, c'est-à-dire le pied complètement ou pas? S'il y a un trou, est-ce que je peux faire ce que je peux suivre? Je vais aller plus loin que ça. Mohamed, si j'ai deux chaussettes, je fais quoi? J'ai trois, je fais quoi? On est sur le premier, le deuxième, le troisième. Vous remarquez? Mais nous, si on arrive à maîtriser juste sur un, c'est très simple le reste. Ne pensez pas que c'est un sujet très dur, mais c'est juste qu'il y a des points à connaître, tout simplement. Alhamdulillah qu'il y a une personne qui a fait recherche à votre place et vous transmet directement la parole des savants. Comme ça, on sait exactement qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est pour ça que je me suis basé sur certains livres et je recommande de les avoir pour ceux qui lisent l'arabe surtout. J'estime que c'est des bonnes références. Par exemple, il y a une risala qui est le, elle s'appelle Mishah al-Khufayn tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher autre chose. Donc elle est nommée Al-Mishah al-Khufayn Talif al-Alam al-Sham Muhammad Jamal Din al-Qasimi. C'est parmi les grands muhaddithines de al-Sham. Et dans le même livre, à la fin, il y a une dizaine de pages, une risala aussi, qui s'appelle Tamam al-Mishah fi Ahkami al-Mishah. Le Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et juste cette petite risala, elle est commentée, ou elle est, il y a une introduction, elle a été introduite par deux grands muhadiths, qui est al-Muhadith Ahmed Muhammad Shakir, parmi les grands muhadithis, qui a vécu avec, à l'époque du Cheikh al-Albani, rahimahullah, et le Cheikh al-Albani, rahimahullah, qui s'appelle al-Mas'u al-Jawrabayn. C'est pas al-Khufayn, mais al-Jawrabayn, sur les chaussettes. Juste une risale, on m'a dit presque une risale juste, il suit sur les chaussettes. C'est une lettre très très importante et très très profitable. Aussi, il y a le livre Sahih Fiqh Sunnah. Et dedans, dans ce livre, c'est un niveau plus élevé parce qu'il cite beaucoup de divergences. Comment on prédomine les avis, c'est vraiment, il faut connaître vraiment beaucoup de choses avant de prendre ce livre. Et dedans, il cite les avis des quatre écoles. C'est pas une seule école, comme ça on ne dit pas « Ah non, ça c'est votre école, c'est l'école Maliki qui dit ça. » Non. On répète, et chaque fois on l'a dit, on ne s'attache pas à une école, on s'attache à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la parole d'Allah, avant tout. Et on a dit que les écoles ou les savants, c'est un moyen qui nous permet d'atteindre la parole du prophète sallam et la parole d'Allah. C'est ça qu'on dit le savant a dit, on transmet le savant. Ou pourquoi on apprend la science des savants? Pourquoi? Parce que eux, ils nous transmettent ce que Allah a dit et ce que le prophète sallam a dit. Et en vérifiant, est-ce que c'est authentique ou c'est pas authentique? Est-ce que c'est un avis fort ou faible? C'est quoi le prédominant parmi les avis? Et etc. Donc c'est pour ça qu'on se référencie à ces savants. Donc c'est un livre très important, il s'appelle Sahih Fiqh Sunnah. Et dedans, ce qui est bien, il rapporte avec les quatre écoles, il cite aussi les avis ou les paroles ou les jugements du Cheikh Al-Albani rahimahullah et le Cheikh Ibn Baz rahimahullah et le Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah. Ces trois savants, avec les quatre écoles, avec tous les référents de jurisprudence, il est bien, en gros il est bien. Je ne dis pas il est parfait, mais en gros, il est très bien et profitable. Donc ça, c'est un deuxième livre. Aussi, je me suis basé sur le livre peut-être que vous connaissez tous, vous en donnez au moins le nom, Bulugh al-Maram. Je répète, Bulugh al-Maram, qui a fait ce livre? C'est qui l'auteur de ce livre? Il est très connu. Non. Ibn Hajar, là. Mais c'est Ibn Hajar. Ibn Hajar, il a expliqué Sahih Bukhari. Bulugh al-Maram, qui l'a fait? Abd al-Ghani al-Maqdisi, parmi les grands savants hanbalites. Il a fait ce livre, le contenu du livre, comme je l'ai dit, que des ahadiths. Aucun commentaire. Que des ahadiths. Un livre de jurisprudence, que des hadiths. Il n'y a rien. Comme Kitab Tawhid. Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Aucun commentaire. La même chose. Comme l'Arba'a an-Nawawiyya, peut-être à votre niveau. Que des hadiths, il n'y a aucun commentaire. Bulugh al-Maram aussi, c'est que des hadiths, mais ce qui est bien, qui concerne que la jurisprudence. Que la jurisprudence. On commence de Bab al-Miyah jusqu'au dernier chapitre. Et dedans, il y a le chapitre Al-Mas'h al-Khufayn. Vous trouvez 7 hadiths concernant ce sujet, par exemple. Et presque tous les hadiths, toujours vous trouvez Al-Mas'h al-Khufayn. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Al-Muwatta, Musnad, Nisa'i, Ibn Majah, presque tous les Ummahat de Sunan, tous les grands livres ou les références dans le hadith, vous trouvez ce chapitre al-Masḥ al-Kufayn juste après, au début, de toute façon ça va être certainement dans le premier volume, toujours, parce que c'est juste après les ablutions. Donc on a abordé Boulour al-Maram, ils l'ont expliqué, il y a beaucoup, beaucoup de savants qui sont intéressés, la preuve que la valeur de ce livre. C'est un livre, il est recommandé à la base, comme peut-être le Dars de Mayan, Dars apparemment, c'est ça sur la méthodologie, les demandes de la science, c'est ça. Et dedans, à la base, normalement, je pense qu'ils vont vous parler que dans la science, c'est toujours, c'est pas par pas, et degré à un autre. Et parmi, dans le hadith, dans la matière hadith, toujours on commence par apprendre l'arma'in al-Nawawi à la base. Celui qui va apprendre le hadith, il commence directement à la base l'arma'in al-Nawawi. Il ne va pas commencer par autre chose. C'est toujours, on construit une base, et après, le pilier, les murs, etc. C'est toujours la base. Arba'in Nawawi. Ensuite, si on a terminé, on passe à un autre niveau plus élevé qui est. Bad l'Arba'in Nawawi, Indana. Umdat al-Ahkam. Umdat al-Ahkam, le même auteur, mais il est moins de hadith. Moins de hadith, ça c'est l'explication, il est en 4 volumes de Boulour al-Maram. Donc le deuxième c'est Umdat al-Ahkam. C'est un livre, il est très simple. Il est juste avant Boulour al-Maram. Après Umdat al-Ahkam, on monte à Boulour al-Maram. Après Boulour al-Maram, ils vous disent, vous pouvez attaquer Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Est-ce que c'est bien? Donc c'est niveau par livre. Donc ce livre, Boulour al-Maram, ils l'ont beaucoup expliqué, et parmi les savants, qui est décédé, le cheikh Abdallah ibn Abdurrahman al-Bassam. Je répète, Abdallah ibn Abdurrahman al-Bassam, parmi les grands savants dans la jurisprudence, il a expliqué, il est très répandu ce livre. N'importe quel talib, même si il est débutant, il connaît qu'il existe un livre de Boulour al-Maram ici, qui s'appelle Tawdih al-Ahkam fi Boulour al-Maram, le cheikh al-Bassam. Il est connu, ce livre. Vous le trouvez facilement. Donc je suis basé sur ce livre aussi, qui est un référent dans ces... aussi même de... Adwa al-Bayan de l'imam al-Shanqidi, rahimahullah, dans le tafsir. On sait bien qu'il y a des hadiths qui parlent sur al-Masḥ al-Kufayn, des versets. On a cité le verset. Après on a dit dans une lecture, qui est authentique aussi. Il se base sur cette lecture, d'un verset pour dire que voilà, que même M. Al-Kufayn il existe encore. Et je me suis basé sur ce tafsir de Adwa al-Bayan et d'autres tafsirs. Mais il me suffisait parce qu'il fait des recherches sur un sujet. Quand il commence à parler sur un sujet, il fait une recherche. Il ne parle pas, c'est pas il explique mot à mot, c'est quoi ça. Il fait une recherche. Il ramène tous les avis des quatre écoles, les Sahaba, Tabi'in, les grands savants du 4e siècle jusqu'au ce siècle. Elle ramène tout. Et c'est très 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 bien. Donc c'est pour ça, je me suis basé sur certains livres. Il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Donc j'essaie de regrouper tout ce que je voyais, un avis fort ou prédominant. Wallahu a'lam. Donc après que j'ai cité sur quoi je me suis basé, et chaque fois je vais vous dire où je... De toute façon je vais vous lire les passages, parce que je ne voulais pas que c'est moi qui parle sans préciser d'où j'ai ramené cette information. Moi, comme ça, on saura que tel savant a dit, ou tel hadith dit que, ou la parole d'Allah dit que. Donc c'est toujours, on revient à ces trois choses. Donc on va commencer par le premier point. Muddatul Masḥi wa bidayatuhu. Donc on sait bien que, maintenant c'est bon, on sait que, dans certains cas, on va les voir, parce qu'on va parler sur... ces conditions, et même ça fait partie de ces conditions. Il y a deux conditions, donc si on peut simplifier, je peux dire qu'il y a deux conditions d'une messe. La première chose, connaître quelle est la durée du messe, quand est-ce qu'il commence, et la deuxième chose, at-tahara. Je commence par le premier, ensuite on va au deuxième. Muddatul masih. Quelle est la durée, soi-disant que je porte les chaussures, ou les, on va dire, à prof. Bon, si je dis thermophobe, je fais partie, c'est la même chose pour les chaussures, les chaussettes. D'accord ? On se met d'accord sur ça. Quand je prononce le khof, s'applique, c'est les mêmes jugements que les chaussures et les chaussettes. Et chacun a un délit, hein, mais ça, c'est simple pour moi d'utiliser le terme al-khof chaque fois. Donc quelle est la durée d'une mesh à al-khof ? Soit disons, là je le porte, il est quelle heure là ? On va dire il est 6 heures, c'est ça ? On va dire il est 18 heures. Quelle est la durée du mesh à al-khof ? Hein ? Mustapha a dit demain à 6 heures, c'est-à-dire 24 heures. Un autre. Je dis la durée. Après, on va parler de quand est-ce qu'il commence. La durée. Voilà, j'attendais ça. On a dit, là, il a répondu 24 heures. 24 heures, ça, c'est la durée. Il a précisé, ce que je voulais entendre, c'est pour le résident. Il muqim. Yaumun wa layla. Yaumun wa layla. Une journée et une nuit, c'est ça ? Yaumun wa layla. Donc ça fait partie. Si on regarde que c'est 24 heures. Taïb. Ça c'est pour le résident. Pour le voyage, c'est autre chose. Pour le voyageur, c'est 72 heures. C'est-à-dire combien de jours ? 3 jours. Donc la durée du mesh, la durée, hein, je ne vais pas parler quand est-ce qu'il commence. La durée du mesh, c'est-à-dire la validité du mesh, c'est une journée pour le résident, 3 jours pour le voyageur. Donc je vais vous lire un passage dans le livre Sahih Fiqh Sunnah. Muddatul mesh. حدد الشرع مدة المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. Donc il dit que le shara a déterminé cette durée ou la validité du masah ala al-khuffayn. 2-3 jours avec leur nuit, 3 jours et leur nuit, lil-musafir pour le voyageur, ça confirme ce qu'on vient de dire, wa yawmun wa layla lil-muqim. Une journée et une nuit, c'est-à-dire une journée complète. C'est-à-dire 24 heures pour le résident. وَهَذَا عَلَى جَمَهِرِ الْمُعْلَمَةِ La majorité des savants, ils sont unanimes sur ça. La majorité. Et après, il a cité Al-Ahnaf, l'école Hanafite, Hanbalite, Shafi'ite, wa Al-Zahiriya, une autre école. Donc la majorité, ils considèrent que une journée pour le résident, c'est-à-dire 24 heures pour le résident, et 3 jours qui vaut 72 heures pour le voyageur. Ils sont basés sur un hadith. Hadith. Voilà. Un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, comme ça on est sûr, il n'y a pas de commentaire. Et un Nisa'i. Le hadith, Ali, radiyallahu anhu, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam, donc Ali a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis ja'ala thalathata ayyamin wa layalin wa layalihinna lil musafir. Il a mis 3 jours pour le voyageur. Wa yawman wa layla lil muqim. Une journée et une nuit, c'est-à-dire 24 heures pour le résident. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc la durée elle est simple. D'après le hadith. Et les autres hadiths. Hein. Vu qu'il n'y a pas de divergence, etc., je le fais passer. Les points de divergence, c'est là où je vais mettre l'action. Est-ce que c'est clair? Donc la durée, je répète. Tu peux nous répéter? Non. Ahsan. Il y a un hadith aussi de Awf ibn Malik al-Ashja'i, un autre hadith de hadith Safwan ibn Assad, et autre hadith. Imam de Ubay ibn Ammara, il y a autre hadith. Il y a beaucoup de hadith qui prouvent, ou qui, dedans, qui prouvent que c'est 3 jours pour le voyageur et une journée pour le résident. Taïb. On sait la durée. Quand est-ce qu'il commence al-mash? Quand est-ce qu'il commence le mash?
Vous dites, mais pourquoi on parle sur ça?
Je vais vous lire un passage de la lettre du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Mata yabda'u al-masah.
Les savants sont divergés sur ce point.
Est-ce que... Donc, on cite que deux avis comme ça, on ne rentre pas là.
للعلماء في هذه المسألة قولان معروفان. Les savants ils ont deux avis sur ce point. Deux avis connus.
الأول أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس. والآخر من المسح بعد الحدث. الآخر من المسح بعد الحدث.
C'est-à-dire là il est 18h, écoutez très bien, j'avais mis ablution, écoutez très bien, je l'ai perdu là, est-ce que c'est que là, bon, à 18h j'ai perdu mes ablutions, je suis parrain ou réparrain, je suis pas en état propre, à 18h j'ai perdu mes ablutions. On va dire, j'ai une raison, pas, je suis pas ici, hein, je suis résident. L'Isha, écoutez très bien l'Isha, je l'ai fait à 22h. Je l'ai fait à 22h. Je voulais donner 22h pour avoir une marge, comme ça vous comprenez plus. L'Isha, il est à 22h. Juste avant 22h, 21h59, j'ai fait les ablutions. Écoutez très bien, j'ai fait les ablutions. Je porte les... Je fais le masque. Vous avez entendu ou pas? Je fais le masque. Je suis résident. On a dit la durée, c'est 24 heures. Elle commence 24 heures. De 18h ou de 22h? Pourquoi? Ouais. Ça, c'est ton avis. Donc, ces points sont divergés. Donc, l'avis le plus fort, je vais vous dire, l'avis le plus fort, c'est on commence les 24 heures ou les 72 heures pour le voyageur à partir du premier mas. Donc, les 24 heures, elles ne commencent pas de 18h. Elle commence de 22h. Est-ce que c'est clair? Donc la première messe sur laquelle on commence. Est-ce que c'est clair? Donc il a dit Anna tabda'u min al-hadath ba'da al-labs. Je répète l'exemple pour ne pas enlever l'ambiguïté. Je répète. À condition que dans ce cas, je ne l'ai pas précisé, j'ai déjà le prof, hein, là, je les ai. Là, je dis à 18h, j'ai perdu les... Parce que la condition de porter les choses, c'est d'être, on n'est pas pareil. Bon, c'est la deuxième condition qu'on va voir. On va juste sur le premier. Quand est-ce qu'il commence à le masser? Donc j'avais mes profs, par exemple, à 18h, j'ai perdu mes ablutions. À 18h, j'ai perdu mes ablutions. L'Isha, pour moi, je vais le faire à 22h. C'est pas ici, hein, bien sûr. Dans un cas, je vais le faire à 22h. Je vais essuyer. Donc la question, c'était, est-ce que je commence le fait que j'ai perdu les ablutions, la première fois où j'ai perdu les ablutions, ou la première fois où j'ai fait Al-Masr. Donc l'avis le plus fort, c'est, on commence à suivre par rapport au premier masque, c'est-à-dire le compteur, c'est-à-dire 22h au lendemain, 22h de lendemain, pendant ce temps, je peux faire le masque. Je ne suis pas obligé de les enlever. Est-ce que c'est clair? Donc je fais le richa, je fais le tah de lendemain, je fais l'asr de lendemain, je fais le maghreb, et je reviens à 22h. Est-ce que c'est clair? Donc, pendant cette durée de 24 heures, le masl commence au premier masl. Et je vais vous lire le passage de l'imam al-Nawawi qui confirme ce qu'on vient de dire, que la vie le plus fort, c'est qu'il commence par rapport au premier masl. Pourquoi vous allez voir, vous dites, mais c'est quoi le mal, etc. Dans un cas, on est obligé de connaître ça. Donc il y a des cas, tu es obligé de savoir ça, comme ça tu sauras ce que ton masque est valide ou invalide. Il est valide ou invalide. C'est pour ça que c'est un point très important. Donc je répète, le masque il commence à partir à la première masque. La première fois où je l'ai fait, il commence le compteur de 24 heures.
ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه.
Même l'imam, parce que le Shafi'iyya, ils ne voient pas ça. Ils n'ont pas cet avis qu'on vient de citer, le premier masl. Ils ont l'autre avis. L'imam al-Nawawi, parmi les grands savants de Shafi'iyya, il a contredit son école. Pourquoi? C'est un avis pas fort. C'est pas parce qu'on est maliki, on est obligé sur le maliki. On est Shafi'i, on est obligé. Non. Je regarde l'avis de n'importe quelle école. Est-ce qu'il ne contredit pas la parole d'Allah et de la parole de son messager? Tout simplement. Pourquoi? Parce que la balance, en contrepartie l'autre balance, sur un des deux côtés, on a la parole d'Allah et de son messager. Pas l'avis d'un... Et en contrepartie, on a l'avis d'un savant, ou d'une personne, etc. Même des sahabis. C'est toujours la parole d'Allah et de son messager. Et revenons, même l'imam Malik, l'imam Nawawi, parmi les grands ulama, parmi les grands savants de l'imam Shafi'i, il a contredit son école. Pourquoi il ne voyait pas que ça c'est un avis fort? Et pourquoi l'imam Nawawi, il est très 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 attaché à son école. Pour ne pas dire, mais non, lui cherche la permission. Non, l'imam Nawawi, c'est lui qui a fait Sharh Sahih Muslim. Sahih Muslim, c'est l'imam Nawawi, ce qu'il a fait, son explication. C'est parmi les référents et les meilleures explications de Sahih Muslim, à notre temps. Et pourtant ça, il a contredit son école.
Ils disent « وَهُوَ الْحَارِسَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُخَالِفَهُ مَا وَجَدَ إِلَّا ذَلِكَ سَبِيلًا لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ حَكَى الْقَوْلَ الْأَوَّلِ وَمَنْ قَالَ بِهِ.
C'est-à-dire, dans l'imam Nawawi, lui, pourtant il est très attaché à son école, et parmi les grands savants de cette école, et pourtant ça, il a trouvé les avis, c'est pas fort, et c'est pour ça qu'il a contredit. Il a choisi que le masl, il commence le premier masl qu'on fait. Après, il a cité, et pourtant, il a cité le premier avis dans son livre, il a cité même les arguments du premier avis, mais pourtant ça, il a choisi le deuxième avis qu'on a cité, que le masl yabda min awwal masl. Et après, il a cité même que l'imam al-Awza'i wa Abu Thawr ibtida'u al-mudda min hina yamsah بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا واختاره ابن المنذر. Donc ça c'est un extrait ce qu'il vient de dire, ce qu'il a dit l'imam al-Nawawi, et c'est un avis aussi de l'imam al-Awza'i et Abu Thawr, que la durée elle commence quand est-ce, c'est-à-dire au moment où il y suit, c'est-à-dire la première fois où il y suit. بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود السلفي وسيد أحمد بن حنبل إيه الإمام داود وهو المختار الراجح دليلا يبقى إلى 17 أبي c'est le plus fort en termes des arguments de dalil. واختاره ابن المنذر parmi les grands savants aussi de ابن المنذر, on a cité aussi, il a un livre qui s'appelle الإجماع, il a un livre, il a regroupé tout ce qui est unanime. C'est-à-dire, toute chose, si on peut vérifier que, est-ce que les musulmans ils sont unanimes sur ça, et ça va, il revient parmi les livres, le livre de Ibn Mundhir qui s'appelle Al-Ijma', l'unanimité. Et même Ibn Mundhir, il a choisi cet avis. Donc vous remarquez, l'imam Nawawi, Awza'i, Abu Thawr, Ahmed, Daoud, Ibn Mundhir, tous et même autres savants, même un passager, et aussi même, il y a un athar de Abd al-Razzaq fil Musannaf. Abd al-Razzaq, parmi les ulama du hadith, il a des livres dans le hadith, il a cité un athar,
An Abi Uthman al-Nahdi qal, Hadartu Sa'dan,
وابن عمر يختصمان. Il a déjà assisté Sa'd, صحابي. Et ابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح الخفين. Ils étaient pas d'accord. هذا سعد ابن عمر. Il s'est interrogé sur ça. Sur le مسح الخفين. Quand est-ce qu'il commence? Donc les deux sont partis voir Omar ibn al-Khattab. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. Et ça confirme que il a répondu يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. C'est-à-dire il commence, c'est-à-dire il essuie jusqu'à l'heure de lendemain. Comme je viens de citer, il est 18h, ou soi-disant, il est 18h, donc il a dit, il essuie à même heure au lendemain, pour dire qu'il commence au premier messie. Et ça, vous remarquez l'histoire qui s'est passée entre Sa'd et Ibn Omar, qui sont partis voir, et Omar ibn al-Khattab, et Omar ibn al-Khattab a répondu à cette réponse. Donc, c'est un argument qui confirme, qui tranche. Donc, est-ce que c'est clair? La durée, pour le voyageur, on a dit, c'est 3 jours. Le résident, c'est une journée, ça devient 24 heures. Et la durée du masha commence au premier masha qu'on fait. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la première condition à connaître. Il doit savoir que 24 heures. Parce que pourquoi? Par la suite, on verra. Si ça dépasse 24 heures, qu'est-ce qui se passe? C'est une question à vous poser tout à l'heure. C'est pour ça, quand on dit la durée, il faut connaître la durée c'est une condition, on verra qu'est-ce qui se passe si j'ai toujours les al-khouf, mais j'ai dépassé les 24 heures. On verra ça. Parce que c'est clair. Donc, il faut se rappeler que la durée, c'est elle commence au premier mes avec la durée soit 24 heures pour le résident ou 72 heures pour le voyageur. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième condition, qui est la très importante, elle est très très importante, et c'est ça ce que j'incite parce que beaucoup peut-être de gens ne connaissent pas, c'est à part être propre avant de les porter. Être propre avant de les porter. Parce que c'est clair. Donc je voulais juste un passage aussi qui regroupe les régimes, ce qu'on vient de dire. Tahara. Alors la deuxième condition, c'est un tahara. Être propre avant de les porter. Il y a plusieurs avis sur ça, mais l'avis le plus fort, et les hadiths ils sont clairs sur ça, qui dit Yabda'u يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة. Sur ce passage de mon livre Sahih Fiqh Sunna, la page 153. شرط المسح الخفين. Donc il cite طهارة. Il dit يشترط لجواز المسح الخفين. Il conditionne pour autoriser d'essuyer sur le خف أن يلبسهما على طهارة. Qui les porte en état propre. على طهارة. Et le hadith, c'est hadith Al-Mughira ibn Shu'ba. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. C'est le hadith qui prouve qu'il faut être en état propre, tahir, ou à la tahara. Ensuite, on porte Al-Masih. Et après, on va donner un exemple précis. Comme ça, vous allez comprendre. Le hadith qui dit qu'il faut être en état propre pour les porter, avant de les porter. Il a dit, كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير. J'étais avec le Prophète صلى الله عليه وسلم dans un voyage. فأفرغت عليه من الإداوة. Je lui versais de l'eau pour faire les ablutions. فغسل وجهه. Donc il a lavé son visage. وذراعيه. Il a lavé ses bras. ومسح برأسه. Il a essuyé sa tête. Les habitions normales. Thumma ahwaytu. Je me suis penché pour se diriger pour enlever ses chaussures. Parce que, après ras, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après ras? Les pieds. Donc, sahabi, il croyait qu'il doit, à la base, c'est ce qu'on même, on sait que, bah, après, les, après le, la tête, on va passer aux pieds. Et aux pieds, à la base, c'est quoi? De les laver. Donc, il a dit, je me suis pensé pour lui enlever ce qu'il portait, ce qu'il couvrait ses pieds. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam?
Faqala da'ahuma, laisse-les. Fa'inni adkhaltuhuma tahiratayni.
Je les ai fait rentrer tahiratayni, propres. Est-ce que les chaussures qui sont propres, est-ce que c'est lui qui a qui en est pas propre? Donc, il y a une divergence sur ça. Mais on va parler que l'avis le plus fort aussi qui dit que lui qui on n'est pas propre, c'est-à-dire il avait ses ablutions. J'ai les ablutions, je suis tahir. Il est 18h, je porte, écoutez très bien, je porte mes chaussettes. Est-ce que je peux faire le masque sur eux ou pas? Hein? J'ai les ablutions. J'ai les ablutions. Je pense que 5h30, j'avais les ablutions. J'ai lavé mes pieds quand j'ai fait les ablutions. J'ai fait les ablutions en lavant les pieds. 5h30. À 6h, j'ai porté des chaussettes ou du khouf. J'ai porté des khouf. Oui ou pas? J'ai porté jeudi. À 20, je peux essuyer ou pas sur ces khouf? Très bien. La réponse de Issa, Masha'Allah. Il a dit, tant que tu n'as pas perdu les ablutions, tu peux essuyer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Il est 5h30. J'ai fait les ablutions, j'ai lavé mes pieds. À 18h, j'ai porté les chaussettes. Moi, je ne sais pas pour quelle prière je vais essuyer. Mais les chaussettes, j'ai porté les chaussettes. Est-ce qu'après 18h, pour X raison, je veux faire lire le Coran ou je veux faire une adoration qui nécessite d'être tahir, je peux essuyer sur le khouf? On dit oui, à condition que quand tu avais porté les khouf, tu étais en état tahara. Est-ce que c'est clair? Alhamdulillah. Hassan. Oui ou Raka? طيب ها قال لي الحمد لله هذا ما قال لي الحمد لله رجع انا عفوا نقول له اسكو سي كلير دونك لا دوزيام كونديسيون كي الخوف والحديث يكون اون لا سويت والحديث قد جعل الطهاره قبل لبس الخوف pourquoi parce que le prophète صلى الله عليه وسلم c'est quoi la preuve que الطهارة être en طاهر c'est une condition pour porter les خوف parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a répondu il a pas dit laisse-les d'aouma, non. Il dit, fa'inni adkhaltuhuma tahiratayni. Donc vous remarquez, il y a un sujet qui dépend de là, d'être propre au moment où il voulait essuyer. Parce qu'il a dit, je les ai fait rentrer en état propre. Donc celui qui commente le hadith dit, wal hadith waqad ja'ala tahara qabla labs al khuf shartan. Et dans le hadith, il a mis, ou il a considéré que l'état propre, avant de porter al-khouf, est une condition pour, qui nous permet d'essuyer sur le khouf. Donc je répète, pour la condition, la deuxième condition, c'est être en état propre. Pour que al-mas' al-khoufain, pour être valide, où je peux commencer la condition, la durée de 24 heures ou 72 heures, il faut à la base, quand je les ai portés, je répète, quand j'ai porté Al-Khouf, j'étais en état propre. C'est-à-dire, j'avais déjà les ablutions. Et c'est pas, donc ça déduit que l'autre cas, il est invalide. C'est-à-dire, écoutez très bien, là, j'ai pas les ablutions, écoutez très bien, j'ai pas les ablutions. J'ai porté les chaussettes. J'ai porté Al-Khouf, par exemple. Je suis parti à la salle des ablutions. J'ai commencé par les ablutions. Une personne, écoutez très bien, une personne a essuyé. Parce qu'il a dit, moi, de toute façon, moi, j'ai les chaussettes. Ben, j'essuie. Est-ce que sa purification est valide? Elle n'est pas valide. Pourquoi? D'accord. C'est quoi exactement? Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Ça, c'est Outar, mais il y a une autre raison aussi. Soit le cas. Je suis rien, pareil. Je ne suis pas en état propre. Je suis parti faire les ablutions. Avant juste de faire les ablutions, j'ai porté les chaussettes. J'ai porté les chaussettes. Juste avant les ablutions, j'ai porté les chaussettes. Je dis, mais il fait froid, je porte les chaussettes. J'ai commencé par les ablutions. J'ai les chaussettes, hein. J'ai commencé par les ablutions. J'ai fait, quand je suis arrivé au pied, j'ai essuyé les al-khof. Hein? On a dit l'inverse. Pourquoi exactement? Plus que ça, qu'est-ce qu'on va dire à la personne? Il y a cette condition, mais c'est quoi aussi? On va dire que son wudu, il est réel, kamil. Il n'est pas complet. Pourquoi? Parce qu'il manque. Parce que dans ce cas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit laver les pieds. Et les pieds, c'est un pilier. Oui ou pas? C'est pour ça, si dans ce cas, il a fait, il a essuyé, il est parti sa prière, elle n'est pas venue. Donc, on va remarquer l'importance de connaître ces deux conditions. La première condition, la durée. 24 heures pour résident, 72 heures pour le voyageur, et l'essuie commence par le premier masque. Le premier masque. Mais ce masque, il ne peut pas être parfait si je n'ai pas la deuxième condition. C'est très clair. La deuxième condition, c'est d'être tahir. D'être tahir, c'est-à-dire le moment où j'ai porté les chaussettes, j'étais tahir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc ces deux conditions, ils nous permettent de faire un masḥ al-khuf valide. C'est clair ou pas? Mohamed. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vais vous poser une question. Vous vérifiez vraiment, vous avez compris. Ah, c'est normal. Taïf, monsieur Fokchouf. J'avais une question très très technique, on vous dit. Je ne l'ai plus, elle est dans le livre Shura Fahima Rahmanazad Mustaqna. Il a une question, ça fait mal à la tête. Ah, Al-Hassan, il ne pourra pas répondre, je crois. Si. Si je me rappelle de la question. J'ai plus la question, mais je vous la trouverai, Inch'Allah. Une question concernant sur le masque, concernant la durée, etc. Si je me rappelle, je vous la pose pour mon dos, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair les deux conditions concernant le masque? Taïb. On va passer à un autre sujet aussi qui est lié à ces deux conditions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Là, c'est un point, vraiment, parce que j'avais des retours, même des gens, il y a certaines personnes qui m'ont parlé. Ils m'ont dit, je sais que vous avez posé, est-ce qu'on peut essuyer sur du khouf ou des chaussettes trouées? C'est une question. Donc là, on va la voir, Inch'Allah. Qui a un avis ou qui connaît une réponse? De toute façon, il y a deux avis, de toute façon. Soit oui, soit non. Il n'y a pas de... Mais c'est pour ça, moi, j'insiste. Chaque fois, le plus important, c'est pas connaître la vie en lui-même. Il y a 12 ou il y a 12. Non. Il faut qu'on demande, on remonte plus haut. C'est quoi la trompe de ça? Quels sont les savants qui ont dit ça? On remonte un degré. C'est pas oui, il y a 12 ou il y a 12. Non, c'est pas ça. On remonte. Et l'idéal, c'est si on maîtrise qalala qalala. Ça, c'est plus parfait. Oui et non. Celui qui dit oui, je veux bien au moins si sur quoi il s'est basé, ou sur quel avis, ou c'est quoi son argument, même. Soit un verset, ou un hadith, ou une parole des sahaba, parce que c'est un argument aussi. Il faut savoir que la parole des sahaba, c'est un argument. Même si les savants de fondement du jurisprudence, ils sont divergés sur ce point, mais en gros, avec des conditions, c'est une preuve. On peut se référencer sur la parole du Prophète sallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al
المهدي. Suivez ma sunna et la sunna des quatre califes. Donc la parole d'Abu Bakr, la parole d'Omar ibn Khattab, ou de Uthman, ou de Ali, un des autres sahaba. Elle doit peser. C'est un argument. Bien sûr, si on ne trouve pas un verset, ou la parole d'un messager qui contredit. Si on ne trouve rien, on peut se baser sur la parole des sahaba. Voyez, qui connaît un avis? Est-ce que, donc je... Le troisième point qu'on va aborder ce soir, est-ce que je peux essuyer sur des croûtes ou des chaussettes que vous portez, mais un trou? C'est-à-dire, est-ce que on doit conditionner que il ne faut pas avoir un trou dans les chaussures ou les chaussettes? Si c'est un trou, ah non, 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 tu ne peux pas faire ça. Là. Ah, tu commences à voir, ça dépend. Non, 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 c'est pas ça. Hein? Mais pourquoi? Si tu dis juste, je vais dire pourquoi. Une personne, il va te demander, Akhi, dis-moi ce que, là, il va voir les émissions, il va te dire, qui est Sahabi? Ah, tu me dis Sahaba, enfin, qui? Aïe. Ah, je l'ai lu, ça fait longtemps, je savais, ils m'ont dit, Akhi, Natsak. Aïe, regarde ça. Hein? Fad. Donc, Mustapha, il considère que il faut pas, c'est pas une condition. Même si sur des chaussures ou des chaussettes ou des khouf troués, c'est permis. Aïe. Mais fad. Je vais vous lire un passage du livre ou de la lettre Al-Mas'h al-Jawrabayn, l'essuie sur les chaussettes, que ce n'est pas une condition d'avoir un trou. C'est-à-dire qu'on peut essuyer sur du khouf ou des chaussettes trouées. Je vais vous lire, vous allez voir pourquoi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est pour ça chaque fois, je préfère sur ce sujet citer la parole des savants. Ne dis pas que c'est moi qui ai dit, Nabil a dit. On se met d'accord sur ça. Mustapha Balak. Nabil a dit, etc. Non. Je suis en train de vous lire le passage. Je vous donne le titre du livre et le numéro de page. Impossible. Dites, Nabil a transmis. Ou vous pouvez dire directement dans le livre de Sheikh Jamal Al-Qasimi. Jamal Din Al-Qasimi, parmi les grands muhaddithin. Il a cité, lui, il a cité les paroles des grands savants. Et vous allez, on va voir, Inch'Allah. Amna. المسح على الخف أو الجورب المخرق. المسح على الخف أو الجورب لشوسير تخوي المخرق يعني تخو. فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. Ils sont divergés énormément sur ce point. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a qui disent non, ça dépend la taille du trou, il y en a ça dépend qui veut dire où se trouve ce trou. Beaucoup, beaucoup de conditions. On va voir. Est-ce que on peut conditionner ça ou pas? On doit rajouter ou imposer qu'il faut que il faut pas qu'il soit troublé, il faut qu'il soit de telle matière, il faut que. Il y a beaucoup, beaucoup de conditions. On va voir, est-ce qu'il y a juste ou pas. فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم. Donc là, certaines, et beaucoup parmi eux, il est interdit. C'est-à-dire, s'il est troué, tu ne fais pas. Et on trouve ça dans leur livre. تراه في مبسوطات الكتب الفقهية. Et vous trouvez ça dans les livres de jurisprudence. والمحلى وذهب غيرهم إلى الجواز. Et des autres qui ont vu que les jours. On va voir. وهو الذي نختاره. Et cet avis qu'on va choisir. Et cet avis qu'on va choisir. Il va citer le pourquoi. وحجتنا في ذلك. Notre preuve, c'est quoi? Notre preuve, أن الأصل الإباحة. À la base, les choses, elles sont permises. Oui ou pas? À la base, c'est permis. Je bois de l'eau, moubah ou pas? Parce qu'à la base, c'est moubah. Donc je peux boire. Je peux manger? Oui, je mange. Parce qu'à la base, c'est moubah. Sauf si, dans le Coran ou dans le Sunna, qui contredit ça. Donc c'est beau, il faut savoir que les choses à la base, c'est moubah. Ça, c'est une qa'ida min qawa'id al-din.
il faut savoir que toute chose est permis et autorisé à la base. Mais si, en contrepartie, on a la parole d'Allah du messager qui dit non, il ne faut pas le faire, là, on s'abstient. Est-ce que c'est clair? Oui, barakallahu fi. Donc l'asr, ça c'est un détail. Mais je dis à la base, c'est autorisé. À la base. Faman mana'a, écoutez très bien, celui qui interdit, washtarata as-salamata min al-kharq, celui qui interdit et qui conditionne qu'il ne faut pas avoir un trou. Aw wada'a 'alayhi haddan, ou il faut qu'il doit couvrir le pied complet. Il y en a qui conditionnent toutes ces trois choses. فَإِنَّهُ مَرْدُودٌ. Tous ces avis ou ces choix, ils sont rejetés. Pourquoi? C'est pas on les rejette comme ça. Alors, pour la, les قولي صلى الله عليه وسلم. D'après la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. كل شرط, écoutez très bien. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. Toute condition qui n'existait pas dans la parole d'Allah, elle est badil, elle est rejetée. Badil qui est un badil. Nul ou rejeté dans le sens. Est-ce que c'est clair? N'importe quiconque nous impose, il faut que ça soit comme ça, cette condition n'existe pas dans la parole d'Allah, on le rejette. Ça, ce hadith, il est muttafaq alayh. Wa aydan sahha an al-Thawri. Donc après la parole du Prophète, on remonte même des grands après les tabi'in. Sahha an al-Thawri annahu qala. Une parole aussi qui confirme cet avis. Wa amsah 'alayha ma ta'allaqat bihi rijluk. Et essuie sur les choses qui couvrent tes pieds tant qu'elles ne tombent pas seules. Parce que par exemple des sandales, tu es obligé de l'attacher. Les sandales. Quand on porte un sandale, on l'attache au pied. Pourquoi? Parce qu'elle tombe seule, on ne peut pas porter son. Donc à partir du moment où elle tient dans tes pieds, ou elle couvre ton pied, sans qu'elle tombe, tu peux essuyer. Ça c'est la parole de lui-même Al-Thawri. وَهَلْ كَانَتْ خِفَافٌ. Et après il cite, ça c'est un argument le plus fort, qui dit وَهَلْ كَانَتْ خِفَافُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا مُخَرَّقَةً مُشَقَّقَةً مُرَقَّعَةً. Il disait les خِفَافُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. On connaît ce qu'il y a dans le muslim. Il disait elles n'étaient pas trouées ou déchirées les خوف à l'époque. Parce que les gens disent non, mais à l'époque ils portaient des خوف qui couvrent tout le pied où il n'y a pas de trou. C'est faux. Personne ne peut prouver ça. Et c'est impossible. Pourquoi à la base? Parce qu'ils étaient des pauvres. Et c'est impossible que le pauvre, il porte des choses à chouf non trouées. Ce n'est pas possible. Parce qu'il utilise, il marche avec. Il marche, il utilise. Ils n'avaient pas le tapis qu'on a maintenant. C'est-à-dire, ils s'usaient, c'est ça? Ils s'usaient avec le temps. Ils l'utilisaient avec le temps. C'est impossible qu'il ne peut pas avoir un trou. Et qui pourra nous prouver qu'ils n'avaient pas de trou? C'est impossible, ça n'existe pas. Nous, par expérience, on sait que tu portes des chaussures, ça te déchire. C'est impossible que ça reste toute ta vie sans déchirer. C'est pas possible. Imam Al-Tawri, c'est lui qui dit ça. Et il dit, « Wa hal kanat ?» Et est-ce que les khifaf, le khuf, le khifaf, jam' khuf, le pluriel de mot khuf, est-ce que les khifaf, ou les khifaf, le jam' de khuf, est-ce que les khifaf de l'Ansar et le Muhajirin n'étaient pas troués ou déchirés? Donc c'est une preuve que c'est pas une condition de dire il faut que ça soit, elle ne soit pas trouée. Et c'est la parole, comme je viens de dire, que c'est une condition qui n'est pas dans la parole, dans le livre d'Allah. Et même le Muhajir Ansar, personne ne peut prouver, et en contrepartie, on a le contraire. On a les mêmes mentors qui prouvent qu'elles avaient elles étaient déchirées. Et lui, il a vécu dans le 4e siècle. Il y a un autre athar aussi, Akhraja wa Abdel Razzaq fil Musannaf. ومن طريق طريقه البيهقي وقال ابن الحزم إلى سيتي فإن كان في الخفين. Ça c'est aussi une parole des grands savants, Ibn Hazm, qui est un livre de Muhalla dans jurisprudence. Il dit aussi, فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل ذلك سواء. Là, il a rejeté tout ce qu'on entend, les conditions. Il faut. Il n'y a rien. Il dit, فَإِنْ كَانَ فِي الْخُفَيْنِ, s'il y avait dans les خُفَيْنِ, أَوْ فِي مَا لُبِسَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ, ou sur les choses qu'on les porte sur les pieds. C'est-à-dire, les choses, les, parce qu'à l'époque, il n'avait pas que Al-Khuf, même l'Ifaf. Ils l'ont roulé leur pied avec de la matière, c'est l'équivalent des chaussures qu'on a, c'est pas de la main françoise et des faits, mais toute chose qui couvre le pied. Il dit, kharqun, un trou, soit petit, soit grand, soit en largeur, soit en longueur, c'est-à-dire dans tous les cas, qui montre un peu de pied, c'est-à-dire c'est normal qu'on ait trouvé, on voit le pied. Aqall al-qadam aw akthara, soit un peu ou soit un gros truc. Aw kilahuma, ou même sur les deux pieds. Fa kullu dhalika sawa. Tout ça c'est la même chose, c'est-à-dire on essuie. C'est-à-dire il n'y a pas de différence entre un khouf déchiré ou troué et un khouf non troué, ou la même chose des chaussettes trouées et des chaussettes non trouées. Et après, il confirme « وَالْمَسْحُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ جَائِزُ » Et l'essuyer sur toutes ces choses, c'est permis, c'est autorisé. « مَا دَامَ يَتَعَلَّقُ بِالرَّجْلَيْنِ مِنْهُمَا شَيْءٍ » Tant que ils sont liés, ils sont attachés aux pieds. Tant que ils sont liés ou attachés aux pieds. L'équivalent, par exemple, maintenant, si je porte des... pas les sandales, tiens, claquette, elle tombe, elle est liée au pied ou elle peut tomber? Elle peut tomber, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le mesh sur les claquettes. Pourquoi elle tombe seule? Mais à partir du moment, une chose, jawarib, ou na'alain, ou autre chose, qui s'attache au pied, c'est-à-dire, elle ne tombe pas, même si elle est trouée, comme il a dit, petit, gros, en longueur, en largeur, sur un seul pied, sur les deux pieds, tout est c'est la même chose et on peut essuyer. Et on a dit, on a rejeté celui qui conditionne. Et la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil. Toute condition qui n'est pas dans le livre d'Allah, elle est rejetée, elle est nulle. Quiconque peut me dire, non, c'est troué, tu ne peux pas. Pourquoi tu conditionnes ça? Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, même il y a des autres arguments, quand il a parlé quand il a fait le Masah Khufayn, il n'a pas précisé. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a pratiqué le Masah Khufayn. Pourtant ça, il n'a pas dit, il faut qu'il soit comme ça, ou de telle couleur, ou de telle matière. Et après, même, il va aller plus loin, les savants disent, même si le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a oublié, Il peut oublier. Est-ce qu'Allah Ta'ala peut oublier? Il ne peut pas oublier ça. Même si il a oublié. Salat. Il a oublié, oui ou pas. C'est pour ça qu'on a appris comment faire ce jeu de cerveau. Mais il faut savoir, parce qu'ils disent, oui, mais quoi? Ah, c'est une question très importante. Est-ce qu'on peut dire le prophète oublie? C'est pas normal. Comment ça se fait l'oubli? Non mais c'est quoi? Parce que si on dit le prophète oublie et on ne précise pas, c'est il manque quelque chose. Aïe. Ça c'est une salle aqidiyya ça. Ça concerne votre aqidah. Vous ne pouvez pas dire non, je ne sais pas. Oui, je sais, mais comment ça se fait qu'il oublie? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit dire? En général, il oublie sur les choses pratiques. Fil ahkam al-amaliyya laysa al-aqidiyya. Wadih, dans les choses pratiques, comme la prière, il a oublié. C'est un bien pour nous, parce que c'est comme ça qu'on a appris comment faire ce jeu de cerveau. Soit c'est clair. Donc quand on oublie, c'est les choses pratiques. C'est pas dans le Coran ou dans sa parole, il oublie certaines choses. dans la pratique, il oublie des choses. Et c'est autorisé par Allah Ta'ala qu'il a pu oublier, ce qui est normal. Donc, même s'il a oublié le Prophète, Allah Ta'ala ne pourra pas l'oublier. Donc pourquoi nous, maintenant, ou n'importe qui peut dire, il faut que... Le Prophète ne l'a pas dit. Le hadith, il est général. Il est général. Il y a des choses que le Prophète, non, il a vraiment précisé. Il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit de cette couleur ou de cette matière, etc. Mais le Masal Khufay, il n'a rien. Par exemple, pour l'amama, dans l'amama, on va voir dans les conditions, il faut la boudat al-muhannaka. Il faut que, quand tu le mets, elle, tu dois enrouler aussi, tu fais partie le cou. C'est-à-dire que tu le fais comme ça, et muhannaka. Tu couvres même le cou, c'est-à-dire que tu fais partie le cou. Ça, c'est un hadith qui dit ça. On ne peut pas dire une personne qui fait une amama normale, on peut dire, tu peux faire le masque. Non, on va dire non. Pour que le masque soit autorisé sur l'imama, la boudé comme muhannaka. Pourquoi tu ils vont nous dire, mais pourquoi tu me conditionnes ça? Il faut que ça soit. On va dire, parce que le prophète a dit. Parce qu'il y a un hadith sur ça. Est-ce que c'est clair? Mais dans le masque, il n'y a rien. Personne ou quiconque peut nous dire, il faut que ça soit pas troué ou de telle matière. Il y en a, ils vont plus loin. Il faut que ça soit du cuir ou pas. Kif. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Sauf si le prophète a dit, là, à la race, si tu dis le prophète a dit, donc dans un hadith, que peut-être moi je ne le sais pas, ou je ne l'ai pas su, je ne l'ai pas entendu, c'est possible. Là, on va le prendre, et je dois le pratiquer tout de suite. Mais de l'instant, aujourd'hui, on n'a pas de preuve que Dieu qui renforce la vie qui dit, il faut toutes ces conditions. Donc ça, c'est le troisième point, est-ce qu'on peut faire le mesh sur des khouf ou des jawrab, des chaussettes trouées. Donc on a écouté la parole du Prophète sallam et la parole de l'imam Thawri et la parole de l'Ibn Hazm qu'il ne conditionne pas qu'il faut avoir qu'elle soit non trouée et c'est on peut faire le mal sur toutes ces choses avec le détail qu'on vient de citer. Et aussi, vous trouvez même le détail dans Sahih Sunna, dans la page numéro 154. Et aussi, vous trouvez aussi dans Boulour al-Marak, cet avis que je cite, c'est pas un avis, même beaucoup de savants. Et même aussi dans Abou al-Bayan de l'imam Shankita, rahimahullah, dans la page 17 et 18. Vous trouvez tous ces détails qui prédominent qu'il n'y a pas de condition qu'elle est trouvée ou pas trouvée. Et on fait partie, est-ce qu'elle doit couvrir la cheville ou pas? Parce que c'est un sujet que chaque fois on entend. On peut donner même des autres arguments qui prouvent qu'on peut faire le masque sur des khoufs troués. On va écouter.
اشترط أكثر الفقهاء لجواز المسح على الخف أن يكون ساترا للمحل المفروض غسله في الوضوء.
Beaucoup de savants, beaucoup de jurisprudence, ils ont mis cette condition qu'il faut qu'il ne soit pas troué pour qu'il soit valide et pour on peut faire le mash.
فمنع المسح على الخف المخرق.
C'est pour ça qu'ils ont interdit le mash de dessuyer sur ces choses trouées.
لأنه يرى منه مواضع الوضوء.
Ensuite, le passage.
وقال مالك وأبو حنيفة يجوز المسح على الخف المخرق ما دام المشي فيه ممكنا.
Qui confirme l'avis qu'on vient de dire. Et on a la parole du Prophète sallam, la parole de l'imam Thawri, la parole de l'imam Malik. Je ne vais pas entendre l'imam Malik dit. Il n'y a pas l'imam Malik dit. Même l'imam Malik, c'est l'école la plus propagée ici, dans ce pays, dans surtout les pays maghrébins, il ne conditionne pas qu'il faut qu'elle soit non trouée. Même l'imam Malik, il autorise que tu peux faire les al-masah avec des khoufs troués.
Et c'est l'avis aussi de même de Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala.
Et on a cité aussi la parole d'Ibn Hazm, avec 5 ou 6 références, c'est déjà bien et ça suffit pour ce sujet. Donc je dis même, vous trouvez ça en détail dans Sahih Fiqh al-Sunnah, il est revenu aussi à Boulou al-Maram et à Abou al-Bayn dans le tafsir de Shankiti Rahimahullah. C'est pas une condition. Pour la même raison, et je vais vous lire aussi peut-être un passage. Pour la même raison, celui qui conditionne, il doit, comme on a dit, une condition qui n'existe pas dans le livre d'Allah, elle est rejetée. Aussi dans Boulour al-Maram, la page 250, il dit « Umum al-Hadith yufidu jawazu al-mas' ala al-khuffayn » Le hadith, l'explication du hadith de Safwan ibn Assar, « قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يريهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. » Donc ce hadith, il disait que le prophète nous ordonnait dans le voyage, si on était en voyage, qu'on n'enlève pas al-khifaf, qu'on n'enlève pas pendant les trois jours avec leur nuit, ça c'est pour le voyageur, sauf pour al-janaba. Et on a dit, on verra les annulations de Al-Masr al-Khufayn, si pendant les 24 heures ou les 72 heures on porte les al-khuf ou les chaussettes, mais on a une grande impureté, là on est obligé de les enlever. Est-ce que c'est clair? Sauf pour la dit bin ra'it wa baoul wa naoum, c'est-à-dire les petites impuretés et un naoum, et le fait de dormir. Parce que ça, c'est les petites impuretés. On a dit, quelles sont les grandes impuretés? On a dit trois qui sont janaba, al-hayd pour les femmes, les menstrues, les nifes, le douchi, c'est ça? Pour les femmes. Donc c'est ça, c'est les grandes impuretés. Donc si on porte les chaussettes, mais on a commis ces trois choses, on est dans cet état, on a une grande impureté, là on est obligé de les enlever. Mais ça, l'essentiel, revenons à ce hadith, l'explication, il dit, il tire une faïda. عموم الحديث يفيد جواز المسح على الخفين سواء كان صالحا أو مخروقا. الحديث parce qu'il a dit nous autoriser si on était en voyage de ne pas enlever الخفاف. Il a utilisé le même خفاف, il n'a pas dit خفاف troué, خفاف non troué. C'est le pluriel du mot خف, les chaussettes qui sont en cuir, vous avez montré la semaine dernière, tu vois, qui sont noires, etc. فإن الغالب الإمام aussi cite aussi فإن الغالب على خفاف الصحابة. La majorité dans les خفاف des الصحابة رضي الله عنهم أن لا تسلم من وجود الشقوق والخروق. La majorité des خفاف, le pluriel du mot خف, des الصحابة, elle avait toujours, ou elle avait des trous ou une déchirure. Parce que c'est clair. Donc personne ne peut dire il faut que, etc. Tout ce qu'on vient de dire. Donc ça c'est la parole de Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam dans son livre Sharh Boulour al-Maram. Et même en détail, plus détaillé aussi dans Adwa al-Bayan de Cheikh al-Faqih al-Allama al-Usuli Muhammad al-Amin al-Shanqiti Sahib al-Tafsir Adwa al-Bayan. Donc ça c'est le troisième point.
Il y a quelle heure?
19h. On va finir juste le quatrième point et la suite la semaine prochaine. On va finir juste un seul point et parler aussi peut-être sur les preuves exactes qu'on peut suivre sur les chaussettes, les chaussures. Il y a des dalils aussi des chaussures. Les chaussures, je parle, pas les chaussettes, les chaussures. C'est-à-dire. Les chaussures qu'on porte, les chaussures. Et on va parler aussi peut-être sur l'imam, la condition, et c'est-à-dire le reste de la danse, Inch'Allah. Si on aura le point, parce qu'on aura le point largement la semaine prochaine, Inch'Allah, parce qu'il ne reste qu'un point, et ça c'est en bref, Inch'Allah, on va le terminer, et peut-être on va consacrer, Inch'Allah, une assise, Inch'Allah, comme aujourd'hui, mais consacrer que sur questions-réponses. On va parler sur le mesh al-khuffayn, ahkam al-tayammum, al-wudu, al-ghusl. Des questions, Inch'Allah, et vous aurez des bons livres. Je vous prépare des bons livres en arabe et en français, Inch'Allah.
Hein? C'est le point suivant. T'es prêt, c'est toi. T'es trop prêt, c'est toi.
J'avais dit un stafou.
Fia hada, inshallah, kutub. Français ou arabe, inshallah, ta'ala. Le quatrième point, inshallah, pour terminer, on va lire juste la source de la réponse, comme ça. Le quatrième point, هل نزع الممسوح عليه ينقض الوضوء؟ Est-ce que si j'enlève sur quoi j'ai essuyé, ça annule les ablutions? Par exemple, j'ai dit je suis en état propre. 5h30, j'ai fait mes ablutions avec de l'eau, j'ai lavé mes pieds. À 18h, j'ai porté mes khouf. C'est bon, donc c'est, j'ai le droit, j'ai pas le droit d'essuyer ou pas? J'ai le droit ou pas? Hassan, j'ai le droit ou pas? Je peux essuyer sur, dans ce cas ou pas? Je répète, à 5h30, j'avais les ablutions. J'ai lavé mes pieds avec de l'eau. J'ai fait les ablutions normales, à 5h30. À 18h, j'ai porté les chaussures. Al-Khof ou les chaussures ou les chaussettes. Je l'ai porté. Est-ce qu'à partir de 18h, je l'ai porté, je dis, hein, je l'ai porté. À 22h, c'est l'heure de l'Isha. J'ai fait les ablutions et j'ai fait le masque. Je peux ou pas? Et c'est quoi la durée? Je commence la durée des 24 heures pour le résident à partir de 18 heures. La première fois j'ai porté le khouf, ou je me base sur la première fois j'ai fait le masque. Lequel? Porter ou laver? Ou essuyer? Essuyer. Donc le masque commence à partir de 22 heures. Oui ou pas? Donc à partir de 22h, il commence, c'est-à-dire je peux essuyer jusqu'au 22h de lendemain. Oui ou pas, Mustafa? De 22h aujourd'hui jusqu'au 22h de lendemain. Pendant cette période, je peux, si chaque fois ça nécessite de faire les ablutions, je peux essuyer. Mais, 22h, je parle aussi. J'ai fait les ablutions. J'ai fait ma prière du Isha, par exemple, il y a 22h. À minuit, j'ai pas commis une impureté, une grande impureté. J'ai juste enlevé, j'ai changé, par exemple, je voulais échanger les chaussettes. J'ai enlevé, et je les remets. Est-ce que ça annule les ablutions ou pas? C'est la question. Vous avez compris la question ou pas? Si on n'est pas propre, je porte les chaussettes, ou le khouf, ou les chaussures, mais je les ai enlevées. Est-ce que ça annule les ablutions? Aïe. Avec ça, on va terminer, inch'Allah. On va laisser la suite la semaine prochaine, inch'Allah. Aïe. Hein? Ça n'est pas. Voilà, il a des années. Ah, il y a un verre, qui dit l'air. Hein, comment tu vas lui faire? Comment tu vas le convaincre? Aïe. Je vais vous dire, juste pour vous mettre le message. Celui qui dit, ça nulle pas. Écoutez très bien. Celui qui dit, ça nulle pas. Concentrez-vous. Hein. Celui qui dit, ça nulle pas. De toute façon, celui qui dit que. Chakut Shir Hajj, t'as dit quoi? Ça nul. Et toi, t'as dit ça nul pas. Oui, moi, Zouj, Gahaka. Gahaka, Zouj, aucune dirée. Oui, lui, il dit carrément les deux. Je sais pas c'est quoi ces deux, mais. Je sais pas. Khair, Inch'Allah. Ah, toi, t'autorises les deux. J'ai compris, pas hier. Aïe, tu peux nous donner un. Mais l'histoire, c'est pas dire ça, les élèves. Je veux. Le pourquoi? L'essuyage est annulé. Pourtant, vous avez la réponse. Aïe. Hein?
Lui, carrément, il a sorti un autre avis. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Il a dit, parce que ma question, est-ce que ça annule les ablutions? Ça annule, lui il a répondu, que ces ablutions sont toujours valides, mais il ne peut pas essuyer, parce qu'il les a enlevés, c'est ça? C'est un autre troisième avis, ça. La prière, elle a fait, non, je n'ai pas parlé sur la prière. Hein. Je ne peux parler pas. Je vais vous donner la réponse, Inch'Allah. Je sais que tout le monde... Est-ce qu'il suit aussi? On va revenir au point précédent. Est-ce que c'est une condition que? Le même contexte. On va lire. Le Risale aussi, je vous ai dit, de l'Mesh al-Jawrabin de Cheikh Mohamed Jamal Din al-Qasimi, et les commentaires par Cheikh Mohamed Ahmed Shakir, c'est un hadith aussi, et de Cheikh Al-Bani Rahimahullah. Donc, ça c'est une réponse. Il dit, اختلف العلماء أيضا في من خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه على أقوال ثلاثة. Donc les savants, ils sont divergés aussi sur le fait d'enlever al-khuf et autres, comme les chaussures ou les chaussettes. بعد أن توضأ ومسح. Après qu'il a fait sa mission, il a sué sur le khuf. Il y a trois avis. Je vais vous lire l'avis le plus fort directement, comme ça on mémorise l'avis le plus fort pour ne pas vous perturber. L'avis le plus fort, il dit وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَرْجَحِ. Et certain, le premier avis, c'est lui le plus prédominant. L'avis le plus prédominant, il dit أَنَّ وَضُوءَهُ صَحِيحٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Ses ablutions, ils sont valides. Il n'a rien de mal. Ses ablutions et sont valides, c'est-à-dire il peut les reporter et il continue toujours la période de 24 heures depuis la première fois. Bien sûr. Là, je dis 5h30, j'ai lavé mes pieds. J'ai lavé mes pieds, écoutez très bien, j'ai lavé mes pieds. C'est bon, je n'en ai pas propre. À 18h, j'ai porté les khouf. À 18h, j'ai porté le khouf. À 22h, j'ai fait les ablutions, j'ai fait le mesh. Donc on a dit le mesh, il commence à la première fois, j'ai essuyé. Donc le compteur de 24 fois, il commence à partir de 22h. Taïr. De 22h, donc la période, elle est valide de 22h ou 22h de lendemain. On est quoi aujourd'hui? Le vendredi, c'est-à-dire 22h ou samedi, demain, Inch'Allah. Pendant cette période, je peux essuyer chaque fois que je refais les ablutions. Je peux essuyer, je ne suis pas obligé d'enlever chaque fois. Je peux essuyer. Moi j'ai dit, à 22h, j'ai fait le premier mesh. Donc, il commence les 24h. À minuit, pour X raison, pas forcément une raison justifiée, j'ai enlevé les chaussettes. Ils sont serrés, je voulais les changer. J'ai enlevé. Si tu les enlèves, il n'y a pas de mal, tu as toujours les ablutions. Juste les remets, mais le compteur, c'est le même ou pas? C'est le même. C'est le même. Parce que c'est clair. C'est-à-dire, enlever les chaufs et le remettre, il ne touche pas ou il ne dérange pas du tout la période de la validité. Est-ce que c'est clair? C'est comme vous n'avez rien fait, pour vous simplifier. Ne dites pas, est-ce que les 24 heures recommencent à la prochaine messe, etc. Non, du tout. Est-ce que c'est clair? Tes ablutions. Tu les as enlevés comme ça. Tu es en état propre, tu les as enlevés. Oui? Non, si tu n'auras pas les bdos, tu vas les remettre. Mais si tu le remets, tu seras en état, soit disons, tu as perdu des ablutions. C'est-à-dire que tu les as remis en état impureté. Donc là, tu ne peux pas. Est-ce que c'est clair? Oui, on garde, c'est toujours, on est toujours en état d'impureté. On est toujours en état pur. Est-ce que c'est clair? C'est toujours les deux conditions, il faut toujours se rappeler. C'est-à-dire, de les enlever, ça ne dérange pas du tout la personne qui fait Al-Masa. Oui, échanger, les enlever, les remettre, échanger par une autre plus grand ou plus. Il n'y a pas de mal. Hein? Oui, c'est pour ça, lâcher à aller. Ces ablutions, ils sont valides ou lâcher à aller. Je ne vais pas refaire les ablutions, etc. Parce que c'est clair. Naam. Et on va continuer.
لأن المناسب لكون المسح رخصة وتيسير من pourquoi
on n'a pas conditionné que non il faut que c'est à dire il faut qu'il refait les ablutions avec de l'eau et après il le remet etc. pourquoi parce que le masque c'est une rukhsa, c'est une facilité. Est-ce que c'est clair? Parce que si les enlèvent, on va lui dire non, tu dois laver. C'est-à-dire tu dois refaire les ablutions avec de l'eau. Ensuite, tu le remets, elle n'est plus une rukhsa. Elle n'est plus une facilité. Est-ce que c'est clair? Donc ça c'est un argument. Wa taysira min Allah, c'est une facilité d'Allah. Wal qawl bi ghayrihi yunafi dhalik. Et tout celui qui contredit ça, il a contredit que le fait que le masah c'est pas une rukhsa, c'est pas une permission, une autorisation d'Allah.
كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم ويترجح من القولين الآخرين بمرجح آخر بل
بمرجح c'est-à-dire le premier argument celui qui a dit que tout va bien c'est comme on a rien commis c'est-à-dire les admissions sont valides il y a deux autres arguments
أنه موافق لعمل الخليفة علي بن أبي طالب
ça c'est l'avis qui tranche tout l'avis ce qu'il a fait Ali ibn Abi Talib tranche tout là on n'a pas cité la parole d'Allah et la parole du messager mais il y a une sunna de Ali ibn Abi Talib qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait Ali ibn Abi Talib on a dit la parole d'un sahabi à certaines conditions c'est un argument on précise très très bien c'est un point il faut le connaître il ne faut pas dire non c'est Ali il faut se rappeler c'est qui Ali radiallahu anhu il faut se rappeler c'est qui Abu Bakr c'est qui Omar etc et les autres sahaba leur valeur et Ali ibn Abi Talib فقد قدمنا بسند الصحيح son athar ce qu'il a fait Ali ibn Abi Talib il est authentique qu'est-ce qu'il a fait أنه أحدث il a perdu ses ablutions ثم توضى ensuite il a fait les ablutions ce qui est normal ومسح على نعليه il a essuyé sur ses chaussures ثم خلعهما ensuite, il les a enlevés. Thumma salla. Ensuite, il est parti faire la prière. Ali ibn Talib, il n'avait pas les ablutions. Et il a fait les ablutions. Il a fait le masque sur les chaussures. C'est la même chose qu'on a dit pour les chaussettes, pour le feu, etc. Parce que ça concerne le pied. Malgré ça, ça dit qu'il a essuyé sur ses chaussures. Il a enlevé les chaussures. Si on prend. Donc. C'est pour ça, pour lui, il ne considérait pas que le fait d'enlever, ça annule les ablutions. Donc, Ali ibn Talib, il a enlevé ses chaussures, pourtant que sur lesquelles il a fait le masque, il est parti faire sa prière, et la prière, bien sûr, elle est valide. Donc, c'est l'avis de Ali ibn Talib, et c'est lui-même qui a fait ça. C'est-à-dire, le fait d'enlever Al-Khouf, ça annule pas les ablutions. Il y a un autre argument. مُوَافَقَتِهِ لِلنَّظَرِ الصَّحِيحِ فَإِنَّهُ لَوْ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَلَقَ ça, c'est une analogie. Qui est, vous me permettez juste deux. Alhamdulillah. Un autre argument qui vraiment personne ne pourra dire le contraire. Écoutez très bien, 5 minutes. Hein? 2 minutes, je termine. Alhamdulillah, juste c'est ça ici. Un autre argument, après qu'on a dit, pourtant, l'affaire de Ali ibn Talib, qu'il a essuyé sur les chaussures. Il les a enlevés, il n'a pas refait les ablutions, il est parti faire ses ablutions. Un autre argument, ils disent, c'est une analogie par rapport aux ablutions. Ils disent, j'ai les cheveux ou j'ai pas les cheveux? J'ai des cheveux, d'ailleurs. J'ai fait les ablutions. Écoutez très très bien. J'ai fait les ablutions, je suis arrivé à la tête. Je fais quoi? Al-Masr. D'ailleurs. Juste après mes ablutions, je suis pas chez le coiffeur. J'ai rasé complètement. J'ai refait les ablutions? Non. C'est la même chose pour les pieds. Regardez les savants comment ils ont réfléchi. Personne ne peut dire qui parmi nous il refait les ablutions. C'est impossible. Personne ne va refaire les ablutions. C'est une analogie. Et celui qui a la tête, c'est comme les chaussures. T'as rasé, c'est quand t'as enlevé les cheveux. Jamais quiconque ou personne savant, il a dit non, tu refais des ablutions. Donc c'est une analogie, avec cet exemple qu'on vient de citer, c'est une analogie sur les pieds. C'est-à-dire, si t'avais les ablutions, t'as fait le masque, t'as enlevé pour une raison, Pas forcément juste lui, même tu les enlèves et tu les remets pour échanger comme il me dit le frère, ou il n'y a pas de justifié. Tu peux les enlever, les remettre sans aucun problème, et ça n'est pas du tout à les ablutions. Et on a donné l'exemple de celui qui fait le masque sur sa tête et va par la suite chez le coiffeur, Mohamed, tu rases complètement tes ablutions qui sont valées et tu vas faire ta prière, et tu jamais tu dis non parce que j'ai rasé, ah il faut que ça annule les ablutions. Wallahu a'lam. تبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ويأخي لا سمن بخشان إن شاء الله تعالى ونكنتنرى لا دانيا بتختي المسح على الخفين والله تعالى أعلم
سبحانه لا إله إلا أنت استغفرك وتوب إليك وجزاكم الله خيرا